Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
Bonsoir, bonsoir, ravi de vous retrouver pour 2 heures d'information. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h et pour l'heure, il est 18h. Et au sommaire de nos 2 heures de direct, une annonce d'abord pour tous les amoureux du ballon rond et pas que. Kylian Mbappé reste au PSG. C'est vrai que ces dernières semaines, la rumeur madrilène nous avait un peu décoiffé, pour ne pas dire retourner la tête. Explication de ce choix dès le début de ce journal de 18h. Et puis nous irons à Madrid prendre l'attention. Évidemment, pas mal de déceptions. L'actualité, c'est aussi évidemment le gouvernement. Borne J+1, les passations de pouvoir ont continué ce samedi. Bruno Le Maire se posant comme le ministre du pouvoir d'achat dans la droite lignée des annonces d'Elisabeth Borne hier sur TF1. Nous recevrons dans 6 minutes Agnès Verdier-Molinier. La présidente de l'IFRAP craint déjà les milliards d'euros qui risquent d'être engagés dans ses différents boucliers tarifaires. L'invité politique à 18h15, c'est Cédric Villani, candidat NUP dans la 5e circonscription de l'Essonne. Souvenez-vous, Cédric Villani, c'était le chouchou d'Emmanuel Macron, qu'il avait propulsé en politique avant le divorce et les députés frondeurs. Comment vit-il désormais sa reconversion au sein de NUP ? De Macron à Mélenchon, le chemin n'est-il pas un peu long? Nous lui poserons la question. 18h30, ça fait débat avec Marie-Virginie Klein et Édouard Dorian-Sipel. 19h, le journal de Sophie Tussaud. 19h15, le retour de Jacques Toubon. Non, pas en politique, mais pour tout ce qu'il avait à dire et qu'il n'avait pas dit jusque-là. Je dois vous dire, chez Stock, ou comment retrouver un vivre ensemble universel en rupture avec les contradictions de notre époque. 19h30, panorama. Débat ce soir autour des taux d'emprunt immobilier. Ça grimpe en flèche. Alors que doivent faire les consommateurs, les professionnels vous expliquent. Bon samedi soir avec nous, vous avez le programme. Et d'abord, cette information que nous pouvons confirmer sur Europe 1. Le suspense faisait passer quelques nuits blanches dans le monde du foot. Bonsoir Jean-François Pérez.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
Jean-François, finalement, Kylian Mbappé reste au PSG.
Oui, plusieurs sources nous confirment la nouvelle qui s'est répandue cet après-midi. Kylian Mbappé sera toujours au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Le joueur a donné son accord pour prolonger son aventure avec le club de la capitale. Sans doute 3 ans, 2 saisons plus une avec sursis. Il a donc dit non au Real Madrid. Et c'est un retournement de situation presque incroyable quand on veut bien se souvenir que la star des Bleus était d'accord pour partir à Madrid l'été dernier. C'est le PSG qui l'avait retenu. Alors depuis, les discussions entre l'entourage du joueur et les deux clubs se sont accentuées. Longtemps, on a cru que Mbappé allait rejoindre le club de ses rêves de gosse. Le Real, d'ailleurs, était prêt à lui dérouler le tapis rouge, lui offrir des conditions jamais vues. Mais jamais, dans tout ça, le PSG n'a perdu espoir, parce qu'il faut dire que Leonardo, le directeur sportif du club parisien, d'ailleurs nous l'avait confié en exclusivité sur Europe 1 il y a quelques mois, on veut qu'il reste et on fait tout pour. À l'époque, tout le monde souriait. Ben voilà, Mbappé reste donc au PSG. On parle de sommes folles, hein, qu'on ne peut pas confirmer pour l'instant, mais c'est des centaines de millions d'euros en tout pour cette opération. Et il faut dire enfin que les enjeux étaient colossaux. Coupe du Monde au Qatar, première ligue des champions du club aussi, hein, du PSG, à les conquérir. Le tout avec des pouvoirs qui seront bien supérieurs à ceux d'un simple joueur pour Mbappé. Voilà, la fête sera belle ce soir, évidemment, au Parc des Princes. C'est une très bonne nouvelle, bien sûr, pour le PSG, mais aussi pour le foot français dans son ensemble.
Merci Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe 1, direction Madrid. Maintenant, où évidemment, beaucoup attendaient l'arrivée de la star parisienne, Cyril de la Morinerie. Vous êtes en direct, comment est-ce qu'on réagit là-bas?
Eh bien écoutez, c'est un tremblement de terre ici. Tout le monde croyait encore ce matin que Mbappé allait signer au Real. Mais en milieu d'après-midi, le journal Marca a confirmé les informations venues de France et notamment d'Europe 1. Kylian Mbappé aurait même appelé le patron du Real Madrid, Florentino Pérez, pour lui annoncer sa décision. Alors autant vous dire que les radios ici tournent en boucle autour de ce qui est désormais considéré comme un fiasco. Certains auditeurs en veulent même aux joueurs français. Devant la boutique du club avec Zoé Palier, j'ai rencontré Roré, écharpe blanche autour du cou, il s'est fait une raison.
Non, Mbappé ne vient pas à Madrid. Je pense que le PSG a mis beaucoup de pression pour le garder. Jusqu'au mois dernier, il aurait pu venir, mais là, le PSG a trop insisté.
Voilà, la Madrid, l'atmosphère est lourde, hein, entre la chaleur suffocante qui règne dans la capitale espagnole et puis, bien sûr, ce feuilleton Mbappé aux multiples rebondissements. Ce soir, Luis est désabusé.
C'est une situation très étrange.
La situation est très étrange. Il dit oui, puis il dit non. J'aimerais qu'il vienne ici, qu'il triomphe. Et puis qu'il rentre après dans 5 ans s'il a envie.
Voilà, il faut oublier l'association Mbappé-Benzema avec le maillot blanc. Autant dire que plus grand monde ici n'a envie de regarder la fameuse annonce de Mbappé ce soir ou demain matin. Cela promet des lendemains qui déchantent à Madrid. Supporters, dirigeants, commentateurs vont sans doute demander des comptes au président du Real Madrid pour le plus grand club du monde. Le dossier Mbappé est bien plus qu'un échec. Cela ressemble fort à une humiliation.
Ouais, demander des comptes, vous avez bien raison, Cyril de la Morinerie, puisqu'à l'instant, le président de la Liga dit que c'est une insulte au football. Voilà, c'est sobre en tout cas dans ses propos, on verra ce qu'il dira par la suite. Voilà donc pour cette information de taille dans laquelle bien sûr on reviendra dans le journal de 19h et évidemment largement à 20h dans Europe 1 Sport. Merci Cyril de la Morinerie avec Zoé Pollier en direct de Madrid. 18h05 dans l'actualité de ce samedi également, 86e jour de guerre en Ukraine, la Russie poursuit son offensive dans l'est du pays. L'armée russe affirme ce matin avoir détruit un important stock d'armes fournies par les États-Unis et par les pays européens. La frappe aurait eu lieu près de la gare de Malines dans la région de Zhytomyr. Côté politique, Volodymyr Zelensky affirme que la guerre ne peut prendre fin que par des biais diplomatiques. Joe Biden lui débloque 40 milliards de dollars pour l'Ukraine, 20 milliards pour les armes, 6 milliards permettront au pays de s'équiper en blindés et renforcer la défense antiaérienne. Les pays du G7, hier réunis en Allemagne, ont également promis de mobiliser près de 19 millions d'euros afin d'aider l'Ukraine à combler son déficit financier. 18h06, vous restez avec nous dans un instant. Premier déplacement d'Elisabeth Borne dans le Calvados, là où elle est candidate. Déplacement sous le signe du pouvoir d'achat. On en parle dans un instant. À tout de suite.
Europe Soir. Pierre de Villeneau vous informe sur Europe 1.
18h08, premier jour du gouvernement Borne avec des passations de pouvoir qui se sont poursuivies ce samedi. Par exemple, à l'hôtel de la Cesse cet après-midi, Catherine Colonna remplaçant Jean-Yves Le Drian au ministère des Affaires étrangères. Et à Bercy ce matin avec une flopée de ministres partants, Olivier Dussopt, Agnès Pannier-Runacher, Olivia Grégoire, Cédric O, Jean-Baptiste Lemoyne, Bruno Le Maire apparaissant un peu comme un maître d'école avec ses anciens élèves. Le ministre de l'économie reprenant d'ailleurs pour lui l'annonce principale d'Elisabeth Borne hier aux 20h de TF1, à savoir ce premier projet de loi sur le pouvoir d'achat.
Dès demain, avec Gabriel Attal, nous nous attellerons à la préparation du projet de loi sur le pouvoir d'achat. Je veux être clair. Protéger le pouvoir d'achat des Français, cela passe d'abord par le travail et la bonne rémunération du travail. Et cette constante de la politique du président de la République et de la majorité sera maintenue. Défendre le pouvoir d'achat, c'est évidemment également protégé contre l'augmentation des prix. Mais je veux être tout aussi clair, chacun doit participer à la lutte contre l'inflation. Tout ne peut pas reposer sur les épaules de l'État, parce que l'État, c'est la dépense publique, et la dépense publique, c'est l'argent des Français. Je recevrai donc, dès lundi, les acteurs économiques pour étudier avec eux comment ils peuvent, eux aussi, participer à la protection des Français contre la hausse des prix.
Bruno Le Maire, ce matin, projet de loi immédiatement entendu par les Français. Dans ce projet de loi, quand même, dans le détail, il faut que vous le sachiez, un chèque alimentation, des mesures de bouclier tarifaire, la prolongation de la réduction des prix du carburant, la revalorisation des retraites, le triplement de la prime Macron et pour ceux qui roulent en voiture, un leasing à 100 euros par mois, moins de 100 euros par mois pour l'accession à une voiture électrique. Alors ce matin, dans le Calvados, lorsque la Première ministre se retrouve, alors qu'elle est en campagne tout à l'heure face à une retraitée, eh bien ça donne ça.
On tire la ficelle partout.
Du coup, il y avait des mesures qui avaient été prises, qui auraient dû se mettre en œuvre, notamment jusqu'à fin juillet, sur la baisse sur les prix des carburants.
Oui.
On va prolonger cette mesure-là. On ne va pas augmenter de 18 centimes. On va continuer à avoir cette remise sur les 18 centimes. Maintenir jusqu'à la fin de l'année le gel du prix du gaz et de l'électricité. On a des mesures aussi sur l'indexation des retraites. Au 1er juillet,
oui, vous savez que c'est 4%, c'est excusez-moi, 4%.
Alors, je vais avoir une décision à prendre dans les jours qui viennent sur le sujet.
Mettez du net. Hein.
Mais vous serez tenu au courant. Mais peut-être que je m'exprimerai publiquement. Mais si vous me donnez votre portable, je vous l'annonce avant, alors.
Voilà, négociation en direct entre une retraitée du Calvados et la Première ministre Elisabeth Borne. Propos recueillis par Jacques Serret, Jacques qu'on retrouvera à 19h pour ce premier déplacement de campagne. Bonsoir Agnès Verdier-Molinier.
Bonsoir Pierre.
Merci d'être avec nous, présidente de l'IFRAP, auteur du livre Le vrai état de la France à l'Observatoire. Quand vous entendez cette liste que j'ai dite tout à l'heure incombant à ce projet de loi de pouvoir d'achat, vous dites quoi? Vous dites on va encore dépenser?
Moi, je dis le quoi qu'il en coûte n'est pas totalement terminé, visiblement. Hein. Toutes les annonces qui ont été faites par Elisabeth Borne hier soir, reprises par Bruno Le Maire, on les avait chiffrées hein, déjà à la Fondation IFRAP hein, depuis plusieurs jours. Et on considère que c'est au moins 15 milliards de plus de dépenses qui vont être faites hein, pour cette année 2022. C'est absolument gigantesque encore. Hein. Il faut savoir qu'il y avait déjà 26 milliards de dépenses qui ont été faites aussi déjà sur des mesures pouvoir d'achat, hein, les boucliers, le chèque énergie, la remise de 18 centimes sur le carburant, etc. etc. Tout ça, Bruno Le Maire le dit d'ailleurs, c'est l'argent des Français
oui.
qui va payer.
C'est ce que j'allais vous dire. Il dit on va regarder parce que c'est l'argent des Français.
Oui, absolument. C'est-à-dire que c'est un peu poche gauche, poche droite. Hein. En fait, ce qui est incroyable avec cette inflation, et qui d'ailleurs, inflation, il ne le dit pas le ministre de l'économie, mais c'est une inflation qui est issue aussi, pas que de la guerre en Ukraine, mais aussi des mesures qui ont été prises ces dernières années en dépensant énormément, en faisant marcher la planche à billets. On savait qu'on aurait une inflation, une augmentation des prix. Et donc, c'est le résultat aussi des politiques publiques qui ont été menées. Il ne faut pas l'oublier. Et c'est vrai que c'est l'argent des Français parce que finalement, quand il y a de l'inflation, qu'est-ce qui se passe, Pierre ? Eh bien, tout simplement, on a des rentrées fiscales qui sont beaucoup plus importantes que prévues. Un exemple, le barème de l'impôt sur le revenu, il était calculé avec une montée des prix en 2022 beaucoup plus faible. Résultat, on va payer mécaniquement beaucoup plus d'impôts sur le revenu. On paye beaucoup plus de TVA. Donc, je pense que toutes ces mesures, en fait, ce sont des mesures d'attente à un moment ou à un autre. Dans ce pays qui taxe le plus au monde, hein, c'est la France, eh bien, il faudra un peu baisser les impôts des Français.
Merci beaucoup Agnès Verdier-Molinier pour vos explications ce soir sur Europe 1. 18h13, vous le savez, Europe 1 est la radio officielle de Roland-Garros. Le tournoi s'ouvre demain. Ce soir, dans Europe 1 Sport, vous entendrez le nouveau président de la Fédération française de tennis, Gilles Moreton. Mais il y a eu aussi dans la série Passation de pouvoir, la passation au ministère des Sports et la nouvelle ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, souvenez-vous, est un ancien espoir du tennis féminin. Alors ses premiers mots ont été également pour Roland Garros.
Le sport a été le fil rouge de ma vie. J'ai hâte maintenant de le mettre au service, de mettre au service de l'équipe gouvernementale et de la réussite de tous nos sportifs. De tous les acteurs du sport, les compétences et l'expérience que j'ai pu développer avec bonheur, comme l'enfant d'un club, comme une sportive de haut niveau formée dans une fédération, comme dirigeante bénévole dans un club, puis à la tête de l'association Rénovons le sport français, et enfin, ces derniers mois, comme dirigeante de l'une des plus belles institutions de ce sport. Des pensées pour Roland Garros.
Voilà Amélie Oudéa-Castéra, nouvelle ministre des Sports. Et puis la Formule 1, c'est le monégasque Charles Leclerc sur Ferrari qui s'est offert la pole position du Grand Prix d'Espagne de Formule 1, sa quatrième en 6 parcours cette saison. La météo, Valérie Darmon, les températures au sud sont déjà très hautes, elles vont encore augmenter.
Effectivement, surtout dans le sud-ouest, jusqu'en Occitanie, où l'atmosphère était déjà très lourde et suffocante aujourd'hui. Tout cela sous un ciel voilé et chargé de sable du Sahara sur tout ce dimanche. Des orages vont éclater en soirée sur les Pyrénées et le Massif central. Ils peuvent être violents et sont à surveiller. À surveiller aussi les maximales, à nouveau en hausse générale ce dimanche, atteignant 25 à 30 degrés au nord de la Loire et toujours 30 à 35 au sud. Mais aussi 37 annoncés à Cahors et Albi, 36 à Mont-de-Marsan, 35 à Lyon et Toulouse, 34 à Grenoble, 32 à Angoulême, 31 à Bourges, 28 degrés à Besançon, à Paris et Strasbourg 25 et 20 degrés, toujours très contrastés, à Boulogne-sur-Mer.
Merci beaucoup Valérie Darmon. Vous restez avec nous dans un instant, c'est notre invité politique et les candidats NUP dans la 5e circonscription de l'Essonne. Cédric Villani est avec nous dans un instant.
Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
Et c'est l'heure de notre invité politique. Bonsoir Cédric Villani.
Bonsoir Pierre de Villeneuve.
Merci d'être avec nous en direct. Vous êtes candidat Génération Écologie dans la 5e circonscription de l'Essonne. Alors Génération Écologie, c'est dans NUP ou NUPES ou Nouvelle Union de la Gauche. Je suis obligé de donner les autres candidats qui sont avec vous dans cette course aux législatives, puisque ce sont les règles de l'ARCOM. Alors, vous êtes en face de Paul Midi pour Ensemble, c'est la majorité présidentielle, Christophe Debon pour le Rassemblement National, Didier Paxion pour Lutte Ouvrière, Michel Bourna pour les LR, Benoît Odile pour Raison du Peuple et Denise Barbara pour Reconquête. Cédric Villani, on se souvient de vous, arrivé en politique grâce à Emmanuel Macron. Est-ce que, aux côtés de Jean-Luc Mélenchon, est-ce que l'écart n'est pas un peu grand?
Avant tout, ici, aux côtés des écologistes. Et comme vous le rappelez, je suis candidat Génération Écologie. En 2020, j'ai quitté le groupe de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale pour fonder, avec une quinzaine d'autres déçus de l'action écologique, démocratique et sociale du gouvernement, un groupe parlementaire dont le nom était résumé les valeurs fondamentales, écologie, démocratie, solidarité.
Les EDS, on se souvient.
Dans le même temps, EDS, voilà. Dans le même temps, je me suis rapproché de Génération Écologie et depuis, je m'en suis tenu à cette ligne au sein des écologistes. Aujourd'hui, la nouvelle union populaire, écologique et sociale, c'est une coalition de forces de la gauche et des écologistes. Et c'est bien là-dedans que nous autres écologistes faisons campagne.
Alors, est-ce qu'on vous écoute? Parce que cette nouvelle union de la gauche, elle a quand même été présentée comme Mélenchon, Mélenchon, Mélenchon et encore Mélenchon.
Vous savez, ça, c'est la dialectique, c'est la rhétorique des adversaires voulant résumer cette coalition à un rassemblement autour d'une seule personne. Mais pour nous qui sommes au cœur, ce que nous voyons, et c'était très important pour les écologistes, que ce soit présenté comme une union basée sur un programme dont les mesures ont été négociées soigneusement, dans lequel chaque nuance politique garde certaines de ses convictions. Par exemple, pour les écologistes, très important de continuer à pouvoir porter le fédéralisme européen. Ça renvoie, en ce qui me concerne, à mon engagement fédéraliste qui date de bien avant mon engagement en politique nationale. C'était dès 2010. Et puis, quand je vois au contraire ce qui se passe chez les autres, là
c'est
où
qui, les
il
autres
y a des députés, alors dans Ensemble, comme vous le disiez, en tout cas, on ne sait plus trop comment ça s'appelle, ou Renaissance, ou République En Marche, ou Majorité Présidentielle. Vous avez là un mouvement.
C'est une coalition
qui,
aussi,
dont les candidats se présentent comme le candidat d'Emmanuel Macron, qui ont fait signer des engagements de voter selon les disciplines de groupe. Bref, un parti, un mouvement dont la ligne semble se résumer à suivre une personne. Au contraire, dans NUPES, l'accord s'est fait sur un programme. Le fait qu'il n'y a pas de mandat impératif a bien été rappelé. C'est bien pour leurs convictions et leurs valeurs que les députés s'engagent.
Plusieurs choses à la présentation de ce nouveau gouvernement, Cédric Villani. Et je suis sensible à votre présence ce soir parce qu'on ne vous entend pas beaucoup. D'abord,
et sur le terrain, avant tout, parce que me voici sur le terrain,
oui,
toutes les journées, effectivement, à la rencontre de
on vous a entendu
tous
là-dessus
les électeurs, tous les citoyens, d'autant plus que c'est une période de sortie des différentes vagues de Covid. Les citoyens sont heureux de se retrouver. Aujourd'hui, ce sont les fêtes de village qui s'enchaînent et ça fait plaisir.
Cédric Villani, j'entends votre enthousiasme à être sur le terrain et moi, je vous dis mon enthousiasme à vous recevoir sur Europe 1. Cédric Villani, quand vous avez plusieurs choses concernant le nouveau gouvernement. La première, parce qu'on a beaucoup parlé de lui, est-ce que le fait de choisir Pape Ndiaye en tant que ministre de l'Éducation, est-ce que c'est de l'électoralisme pour faire barrage à Jean-Luc Mélenchon? Est-ce que vous le prenez comme ça?
Je me garderai bien de tout jugement par rapport à la nomination de Pape Ndiaye. C'est quelqu'un que je ne connais pas personnellement, dont j'ai une bonne opinion, qui arrive avec une plutôt bonne réputation. Le musée de l'immigration, de ce que j'en sais, a été une réussite. Je prétends pas avoir creusé le dossier outre mesure, mais je pars avec un bon a priori, je n'en sais pas davantage.
Sur le deuxième sujet qui vous concerne en tant qu'écologiste convaincu, ce grand double ministère de l'écologie avec Agnès Pannier-Runacher d'un côté, Amélie de Montchalin et Elisabeth Borne, elle-même très concernée par la question écologique, qu'est-ce que vous en dites?
Et je ne sais pas trop quoi penser de cette construction sophistiquée, effectivement, où les compétences écologiques sont partagées entre la première ministre, une ministre de la planification écologique, une ministre de la planification économique. Il y a aussi un secrétariat général qui a été annoncé, qui serait dirigé par Antoine Pélion. Et je ne sais pas trop quoi penser. Il faudra éviter que ça devienne une usine à gaz. C'est curieux de séparer planification écologique et planification énergétique, pardon, je sais plus ce que je disais, c'est écologique et énergétique. En tout cas, tant les deux sont liés, important, complémentaire.
Enfin, c'est
un même
gouvernement, donc on imagine qu'on va se parler.
On imagine, mais on a trop l'expérience de dossiers qui, à force d'interministériel, se retrouvent dans un no man's land où on ne sait pas qui est en charge de quoi. Mais vous savez, moi, ce que j'observe, c'est que le gouvernement précédent, les 5 dernières années, on a vu qu'en fait, à l'arrivée, tous les arbitrages se faisaient à l'Élysée. Mmh. On a vu sur des dossiers écologistes qui partaient avec un très grand élan, je pense à la Convention citoyenne pour le climat, mmh. avec beaucoup d'énergie, avec des citoyens tirés au sort qui ont mis beaucoup d'enthousiasme et de vrais projets écologistes et sociaux qui sont sortis de là, on a vu qu'après tout s'est retrouvé arrêté, lessivé, dévalué, parti par arbitrage de l'Élysée, parti par lessivage par la technostructure de façon générale. En vrai, c'est pas forcément le casting qui compte le plus au niveau du gouvernement. Mmh. Léo Cohen, que j'ai bien connu en tant que collaborateur parlementaire, qui a été, qui a travaillé auprès de deux ministres de l'écologie successifs, a publié ce très intéressant livre, 800 jours au ministère de l'impossible, où il nous explique bien comment la meilleure volonté du monde vient se briser sur les rocs de l'administration, de la volonté, ou plutôt de l'absence de volonté élyséenne, et ainsi de suite. S'il n'y a pas une véritable volonté sincère de mener les choses au plus haut niveau d'une part, et s'il n'y a pas d'autre part à l'Assemblée nationale une majorité de députés qui croient sincèrement qu'il faut s'engager pour ces valeurs écologiques, démocratiques, solidaires, et qui sont prêts à renverser un gouvernement qui ne s'y conformerait pas, je suis fort pessimiste.
Vous êtes fort pessimiste, vous êtes un peu sur la même ligne de crête que votre camarade écologiste Julien Bayou, qui ne cesse de dire que finalement tout ce qu'a fait Emmanuel Macron et son équipe en matière d'écologie a abouti au fait que la France soit condamnée pour inaction climatique.
Condamnée pour action climatique, mais aussi...
Inaction.
On a vu inaction climatique, oui bien sûr, mais aussi on a eu certains signaux qui étaient vraiment désastreux. On a eu la cellule Déméter qui était chargée de pister, de surveiller certains militants écologistes sur le thème de l'agriculture, sur le thème de la condition animale. Mmh. On a eu cette Convention citoyenne pour le climat que je vous évoquais, qui a été terrible parce que c'était un vrai espoir qui a été déçu. C'est pire un espoir déçu que rien du tout, presque. Et puis, on a commencé avec « Make our planet great again » et on a continué avec la France remettant un coup dans le moteur pour les néonicotinoïdes, ces pesticides les plus meurtriers qui soient, tueurs d'abeilles et de biodiversité en général, dans un contexte de biodiversité qui continue à s'effondrer. En France, c'est 15% des espèces qui se retrouvent menacées ou en voie de disparition. Ce sont des chiffres extrêmement alarmants sur le vivant de façon générale. C'est l'autorité environnementale, il y a quelques semaines, qui nous disait la transition écologique n'a pas vraiment commencé en France, au sens où on n'en prend pas vraiment compte dans les grands projets d'infrastructure. Nous en sommes encore là en 2022.
Je m'attarde quelques instants sur les différents pans de la NUPES, dont maintenant vous faites partie de cette grande famille. J'ai bien noté tout à l'heure, quand vous avez dit votre attachement à l'Europe, quand Jean-Luc Mélenchon et ses équipes disent que, bah voilà, il y a quelques textes européens sur lesquels on aura peut-être une désobéissance. Est-ce que vous suivez là-dessus, alors que vous êtes très attaché vous-même à l'Europe ?
Extrêmement attaché à l'Europe, et comme je vous le disais, je suis fédéraliste, c'est la vision de certains d'entre nous dans la NUPES, pas de tous. Mmh. Nous nous rejoignons les uns et les autres avec nos différentes tendances pour dire que l'Europe aujourd'hui, telle qu'elle est, avec la PAC que nous connaissons, avec les règlements que nous connaissons, avec le libéralisme économique que nous connaissons, n'est pas une Europe bâtie sur des valeurs écologistes et sociales. Et c'est une Europe qu'il conviendra de refonder, soit d'un seul coup, soit progressivement, mais si on veut qu'à l'arrivée, ce soit quelque chose qui permette aux citoyens, aux nations, d'œuvrer et d'aller résolument dans le sens d'une vraie transition.
Donc on peut éventuellement songer petit à petit à sortir de certains traités.
Attention, il va falloir faire du cas par cas. Je suis légitimiste et pour le coup, je crois en la valeur du Parlement européen. Je suis l'un des premiers à dénoncer le fait que bien souvent, les nations se défaussent de leur inaction en disant c'est la faute à l'Europe et en vrai s'occupent de bloquer au niveau du Conseil européen, au niveau des conseils des ministres européens, toutes sortes d'actions. Mmh. On parlait des pesticides tout à l'heure. L'inaction de l'Europe en matière d'autorisation de mise sur le marché au niveau de l'EFSA est entièrement due au blocage des gouvernements des nations et ça fait 10 ans que ça dure. Et ce genre de choses, c'est quelque chose qui, à moi, européen, me fait extrêmement mal, que j'interprète comme un dévoiement de l'idéal européen et contre lequel il faudra se battre. Maintenant, je vous rappelle, il faut se rappeler que bien des fois, la France s'est retrouvée condamnée aussi pour ne pas respecter les traités européens, que ce soit sur des questions économiques ou sur des questions écologiques.
Oui, oui.
Sur des questions budgétaires, bien sûr, mais aussi sur le nombre d'espèces d'oiseaux chassés ou les chasses, les fameuses chasses traditionnelles, chasses à la glu et autres, qui faisaient de la France un hors-la-loi au sein de l'Europe, et que le gouvernement, pour le coup, que le gouvernement Castex est allé soutenir avant de se faire débouter par le Conseil d'État. Les gens qui nous disent, de quoi vous mêlez-vous de vous lancer dans une désobéissance à l'Europe, ne se sont pas privés, avant de nous faire la leçon, de désobéir à l'Europe sur bien des points quand ça les arrangeait.
Vous voulez dire, il y a ceux qui désobéissent à l'Europe ou qui vont le faire et qui le disent haut et fort, et d'autres qui le font, en sous-marin.
Oui, et quand on dit haut et fort, c'est surtout quand on dit les désobéissances qui seront cadrées, qui seront discutées, tout ce que vous voudrez, uniquement dans le but de motifs écologiques, démocratiques, sociaux, dans le sens d'une Europe telle qu'on aurait dû la construire. Je vous rappelle qu'en 2005, et sur ce point, nous sommes en accord avec ce que dénonce Jean-Luc Mélenchon. En 2005, le référendum sur la Constitution européenne a donné non. Ouais. Et les États se sont dit, tant pis, le peuple a parlé, mais oublions-le. Faisons comme si, débrouillons-nous autrement pour passer des traités techniques et ainsi de suite. C'était une erreur. Mmh. Ils se sont dit qu'on allait aller plus vite. On voit maintenant que c'était du temps perdu et que chaque fois qu'on croit gagner du temps en passant par-dessus une difficulté démocratique, on le perd à l'arrivée.
Cédric Villani, Jean-Luc Mélenchon se donnent un objectif, qui est un objectif ambitieux, celui de devenir Premier ministre. Il en est foncièrement convaincu pour les 12 et 19 juin prochains. Est-ce que vous aussi?
Moi, je fais les choses dans l'ordre. Et les choses dans l'ordre, ça veut dire d'abord se concentrer sur cette élection législative dont nous sommes nombreux à penser au sein de NUPES et en particulier, comme nous l'avons répété au sein des écologistes.
Mais est-ce que c'est un souhait? Est-ce que c'est un souhait que vous partagez avec Jean-Luc Mélenchon lui-même?
Je vous le dis, les choses telles que je les prends. Je vous dis les choses telles que je les prends parce que tellement de temps on a perdu en démocratie, en clarté, en jouant le second tour avant le premier tour, en jouant le gouvernement avant les élections législatives. On fait les choses dans l'ordre. En France, regardez l'absurdité du calendrier, vous rendez compte que Elisabeth Borne, nommée à ce poste incroyablement difficile de première ministre, doit faire campagne pour les législatives en même temps. Dans quel pays est-ce qu'on a une telle absurdité de calendrier? Alors moi, je ne joue pas la nomination du gouvernement avant les élections législatives. Je dis, on joue maintenant les élections législatives. Je dis, jouer, mais c'est extrêmement sérieux. C'est normalement l'élection qui donne le la démocratique et dont tout découle. Une élection qui se joue sur les valeurs. Une élection qui se joue sur les partis. Si je suis parti de La République En Marche, c'est bien parce que je ne savais pas quel était le programme, quelles étaient les valeurs. Il y avait le fait de suivre une personnalité sans pouvoir affirmer qu'on croit dans la durée en ceci ou cela. Aujourd'hui, je sais où je suis.
On vous reconnaît bien là.
Du côté de l'écologie, de la démocratie, de la solidarité, et je me présenterai aux législatives sous cette étiquette, avec les valeurs que je porte et les engagements que je porte aussi depuis longtemps. Et l'objectif sera d'avoir le maximum possible de députés NUPES.
On vous reconnaît bien là. Piano Massano, merci beaucoup. Cédric Villani, candidat.
Merci Pierre de Villeneuve.
Pour Génération Écologie aux législatives, prochaine 18h32 dans un instant. Ça fait débat, à tout de suite.
Europe Soir Weekend.
Pierre de Villeneuve. Allez, place à une demi-heure de débat jusqu'à 19h avec Marie-Virginie Klein. Bonsoir.
Bonsoir.
Conseillère en communication, auteure de Femmes dirigeantes, comment elles ont osé aux éditions Plomb. Et bonsoir à Eduardo Riancipel.
Bonsoir Pierre. Bonsoir.
Porte-parole de Territoire de Progrès dans la majorité, donc. Premier jour de gouvernement après encore quelques passations de pouvoir, dont une notable qui s'est achevée il n'y a pas très longtemps à l'hôtel de Lassay, au Quai d'Orsay, entre Catherine Colonna, une nouvelle arrivante, et qui remplace Jean-Yves Le Drian. Ce qui nous intéresse quand même, c'est cette
ce déplacement d'Elisabeth Borne, à peine nommée première ministre. Elle est, comme le soulignait Cédric Villani, et ils sont, pas s'en offusquaient, mais en tout cas, ils s'en étonnaient de voir qu'elle est en même temps candidate aux législatives dans le Calvados. Elle est déjà sur le terrain. Et ses premières mesures sur le pouvoir d'achat, premier projet de ce gouvernement, concerne le pouvoir d'achat, Marie-Véronique Lin.
Oui, c'est une transition assez brusque par rapport au quinquennat précédent. Souvenons-nous de l'état d'esprit dans lequel on était il y a 5 ans. On était en train de fonder la Startup Nation, on était dans une société en pleine croissance, on était dans une France conquérante. Et là, aujourd'hui, tout se retourne un peu. Bon, d'abord, au passage, il n'y a pas de secrétaire d'État au numérique. Hein.
Il y en a plein qui manquent. Il n'y a pas de ministre des Transports.
Oui,
il n'y a pas de,
bon, oui.
Voilà. Pas de ministre des PME.
Et la priorité de ce nouveau gouvernement, c'est celui de la protection des Français, du pouvoir d'achat, etc. On change vraiment de cap et de philosophie assez générale. Et c'est vrai que c'est assez flagrant. Je regardais aussi les sondages publiés. La première attente que les Français ont à l'égard de ce gouvernement, c'est l'écoute. C'est l'écoute. Donc l'écoute, ça va vraiment avec ce désir de reconnexion, de se mettre à la hauteur des attentes des Français, de se mettre dans le caddie des Français et de se mettre à la place de ceux qui aujourd'hui n'arrivent pas à boucler leur course à la fin du mois.
Édouard Dorian-Sipel, d'accord avec ça ?
Je pense qu'on a un gouvernement qui va désormais se mettre au travail pour répondre aux priorités des Français et à celles qu'a fixées le président de la République. Je crois qu'on a une première ministre qui est professionnelle, qui a l'expérience du pouvoir et de l'exercice du pouvoir, qui en plus va chercher le suffrage populaire des citoyens pour avoir la légitimité électorale. Je crois qu'on a les deux jambes sur lesquelles doivent marcher les hommes et les femmes politiques. On a le gouvernement qui est en place. Et je crois qu'on va tenir les deux objectifs qui sont importants pour le président de la République, pour tout pouvoir d'ailleurs, des objectifs du quotidien, de la vie immédiate. Et Elisabeth Borne a annoncé hier à la télévision que, effectivement, la première loi qui serait votée à l'Assemblée nationale, si les Français décidaient d'accorder une majorité pour le camp du président de la République, ce serait une loi pour le pouvoir d'achat, avec plein de choses qu'on peut détailler, très concrètes. Mais en même temps, objectif du quotidien d'une part, objectif stratégique de long terme, et je pense en particulier à la planification écologique d'une part, oui, et la planification
avec
écologique
d'autre
part. C'est très important, oui, parce que vous savez, un pouvoir concret, et je rejoins ce que vient de dire Marie-Virginie Klein, avec lequel je suis en plein accord, c'est frappant, cette question de l'écoute comme une priorité quand on fait des sondages et des enquêtes auprès des Français. Je crois que derrière cette demande d'écoute, c'est tout simplement une attente des Françaises et des Français qui veulent que le pouvoir, que le nouveau gouvernement réponde à leurs besoins concrets. Et on sait en ce sens que le pouvoir d'achat est une attente immédiate, première, prioritaire. Et je veux dire que le gouvernement sera à la tâche là-dessus. La première ministre l'a encore rappelé. Priorité du gouvernement, premières mesures qui seront annoncées dès le mois de juillet pour répondre à ces objectifs du quotidien.
Mais est-ce que vous êtes en plein accord, comme vous dites, avec Marie-Virginie Klein, qui dit qu'on n'a plus la Startup Nation ? C'est fini. C'est le rêve est brisé, le Louvre, les annonces de cette nouvelle ère, de ce nouveau modèle politique.
Moi, je crois que c'est très bien.
On est dans la continuité, le pouvoir d'achat. N'importe quel gouvernement aurait pu faire ça.
Je ne sais pas, mais en tout cas, je trouve que c'est une bonne chose. En tout cas, que ce ne soit pas mis en avant, cette affaire de Startup Nation. Je crois qu'elle correspondait d'ailleurs pas du tout à la vision qui est celle du président de la République.
Ah, donc vous avez faux, Marie-Virginie.
Non, pas Marie-Virginie Klein du tout. Elle reprend d'ailleurs toute l'exégèse qui était celle du quinquennat précédent et de la première campagne. Elle ne parle pas à partir de rien. Elle parle à partir de quelque chose qui avait été en effet revendiqué par la majorité précédente d'Emmanuel Macron. Je pense que la pensée d'Emmanuel Macron, sa vision de la France, est davantage dans un esprit gaullien. C'est comme ça que je crois qu'il a mené cette campagne. C'est comme ça qu'il envisage ce quinquennat. C'est pour ça qu'il met la question de l'autonomie stratégique, souveraineté de la France, souveraineté de l'Europe. D'ailleurs, c'est frappant, il a mis dans les intitulés même des ministères qu'il vient de nommer avec la Première ministre. Vous avez le ministre de l'économie, mais aussi de la souveraineté industrielle et numérique. Vous avez le ministre de l'agriculture, aussi en charge dans l'intitulé de la souveraineté alimentaire. Je crois que ce sont des marques d'intention très concrètes. C'est une vision qui n'est pas du tout en effet celle de la Startup Nation, ouais, mais plutôt d'une France gaullienne qui veut construire l'autonomie stratégique de la France, mais aussi de l'Europe, dans un monde compliqué, dépendant de fortes contraintes extérieures.
Marie-Virginie, sur ces labels justement que nous dessine Édouard Dorian-Sipel, vous êtes d'accord là-dessus ou est-ce qu'il manque un peu de piment, j'allais dire?
Alors, ça manque pas. Il y a du piment. Il y a des choses pour lesquelles on manque pas de piment et d'autres pour lesquelles il manque de piment. Il manque des secrétariats d'État, hein, quand
qui
même,
vont venir,
qui vont arriver. Donc, on n'est pas face à un gouvernement encore complet. En revanche, donc on va voir. En revanche, là où ça manque pas de piment, c'est sur certaines annonces et certains profils de ministres qui ont été choisis.
Ou comme qui?
Bah, comme celui dont tout le monde parle depuis 24 heures, qui est le nouveau ministre de l'Éducation nationale.
Pas Fengiaï.
Ce nouveau gouvernement, c'est un peu un sans-faute, parce qu'il y a un savant équilibre entre droite, gauche, continuité, nouvelle génération, etc. Mais cette nomination, celle de Pap Ndiaye, on entend déjà un peu de partout, et même dans les rues...
On entend beaucoup de choses, hein.
Que c'est très 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 discuté et il y en a énormément qui bondissent de leur chaise. Donc ouais. D'un point de vue, comment dire, de mon point de vue qui est celui du communicant, il n'y avait aucune prise de risque dans toutes les annonces, mais celle-là, elle est vraiment très forte et je suis surprise qu'elle intervienne en pleine campagne pour les législatives. C'est-à-dire que le sujet du pouvoir d'achat intervienne pendant la campagne pour les législatives. Ce n'est pas très surprenant puisque on a bien vu que c'était ce dont parlaient essentiellement Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Qu'une nomination aussi, pardon, mais aussi risquée, intervienne avant les élections. Alors, soit c'est vraiment du pur électoralisme pour envoyer des signaux gigantesques au NUPES ou à Jean-Luc Mélenchon, etc.
C'est stabilo bossé. Désolé, je cite une marque, mais c'est surligné. Voilà.
Extrêmement. Alors, c'est surligné, mais c'est pour l'électorat, on va dire, centriste et de droite, à mon avis, ça va enlever quelques voix.
Édouard Dorian-Sipel, Pap Ndiaye.
Je salue la nomination de Pap Ndiaye comme nouveau ministre de l'Éducation nationale. C'est un enfant de la République qui se reconnaît comme tel. Il l'a dit dès le départ.
Procès d'intention quand on dit qu'il est wokiste, indigéniste, qui va déconstruire les programmes, notamment d'histoire à l'école, etc.
Complètement. Complètement. C'est un délire total. Un procès d'intention bien intentionné par ailleurs de la part de ses accusateurs. Je veux me référer à deux choses. D'abord, il vient d'être nommé ministre. Il faut donc le juger dans ses actes et décisions de ministre de l'Éducation nationale. Ça, c'est la moindre des choses quand on est honnête et sincère. Parce qu'on peut être un historien, comme c'est son cas, brillant, normalien, un intellectuel engagé aussi, ce qui est son cas, avoir toutes les prises de parole passées que vous voulez, mais de ne rien tirer comme conclusion pour son action de ministre. Et par ailleurs, si on lit un peu son travail, son œuvre principale, je pense, c'est La Condition noire. J'invite chacun à la lire. Je regardais à nouveau pour vérifier, parce que je suis cartésien, donc je commence par le doute avant d'avoir des certitudes. Et donc je suis allé examiner. La Condition noire, me semble-t-il, ne serait-ce que par son titre, fait davantage référence à un héritage qui serait celui de André Malraux, La Condition humaine, de Jean-Paul Sartre, La Question juive, ou même d'un Raymond Aron sur les questions de la condition humaine et de l'existence de l'être humain dans le monde. La Condition noire est un livre où il dit très clairement, il suffit de le lire, il parle d'une expérience sociale qui n'est ni celle d'une caste, ni celle d'une communauté, ni celle, il appelle ça une minorité, c'est-à-dire un groupe humain qui subit un certain nombre de phénomènes dans la société, mais qu'il faut analyser d'un point de vue historique et social. C'est un enfant de la République. Et puis, laissons le ministre agir. Dernière chose, parce que je crois que c'est ça le sens que le ministre a voulu donner de sa propre place. Il a dédié et rendu hommage, dès sa première prise de parole comme nouveau ministre de l'Éducation nationale, à Samuel Paty, qu'il a défini comme son collègue historien. Et je crois que son message est très clair. Celui d'un enfant de la République, attaché à la méritocratie, à l'école de la République, comme l'était Samuel Paty dans les combats qui étaient
Vous n'êtes pas d'accord avec Marie-Virginie quand elle dit que c'est un pari risqué, cette nomination.
Bien entendu que je suis d'accord avec elle. Elle n'a pas
Mais
porté
il faut
de...
prendre le risque.
Je suis totalement d'accord avec Marie-Virginie Klein. C'est un risque, c'est une décision forte, courageuse, osée, qui me tient à cœur aussi, parce que moi je suis
Vous
un Français immigré.
Vous diriez plutôt osé que
qui est un symbole
risqué.
Fort. Elle est osée, comme toute décision.
C'est pas pareil, osée et risquée.
Oui, parce que d'ailleurs, on l'a vu immédiatement, M. Zemmour, faire tous les procès d'intention. On a vu le flot d'injures abjectes qu'a subi Pap Ndiaye. mais qu'on ait au moins le respect de lire un intellectuel, un historien avant de se prononcer. Moi, je déteste cette démagogie, cet esprit
cynique. Si ça se trouve, il l'a lu,
on
n'en sait rien.
Bah, s'il l'avait lu, il n'aurait pas raconté les sottises qu'il a racontées, M. Zemmour.
Et ça,
c'est un démagogue, un sophiste, un menteur. Donc, si on veut se référer à lui, non. Monsieur Ndiaye, on en pense ce qu'on veut. Nouveau ministre, d'abord un historien. Puis moi, je vais le juger comme ministre. Ce que je
on a dit, on jugerait sur les actes.
Il a d'abord rendu hommage à Samuel Paty. Je pense que le sens est très fort. C'est celui d'une république forte qui a besoin de se maintenir comme telle. À lui de se mettre au travail. Et c'est très important pour tous les enfants de France
aussi. Paris osé, Paris risqué, évidemment. Il y a les législatives en ligne de mire, avec un Jean-Luc Mélenchon qui, tous les jours, dit qu'il sera Premier ministre et que c'est un gouvernement d'intérim. C'est ça l'objet du pari, Marie-Jeanne Hutin ?
Oui, bah, je pense vraiment que... D'abord, on a attendu 4 semaines avant d'avoir le gouvernement. Et on a eu quand même plus de titres annoncés que ce à quoi on s'attendait. Donc, clairement, l'objectif, pour moi, c'est vraiment de servir un petit peu tout le monde. L'équilibre était bien maintenu. Moi, je pense quand même que, vous savez, l'opinion, c'est une question de cristallisation. Et là, ce qu'on observe depuis 24 heures, on va voir si ça se continue, c'est une cristallisation des esprits autour de cette nomination et partout. Dans différents cercles, que ce soit finalement dans l'opinion et puis à gauche, et surtout, avons-le, à droite. Donc c'est une cristallisation. On va voir, je suis d'accord, hein, il faut laisser sa place au ministre dans son action et ne pas faire des procès d'intention, etc. Mais la politique, c'est une affaire de symboles. Et là, le symbole envoyé, c'est vraiment une façon de... D'abord, je pense que ça doit être assez dur pour Jean-Michel Blanquer, parce que c'est vraiment, je veux dire, que ce soit sur le fond comme sur la personnalité, c'est un anti-Blanquer aujourd'hui qu'on a au gouvernement. Et donc, le message, il est vraiment, je pense, pour rassurer les professeurs qui ont eu quand même cinq années d'une politique de droite assez, assez forte. Et donc, ça a envoyé un message inverse. Donc, je suis d'accord, laissons l'action faire ses preuves. Mais c'est aussi quelqu'un, encore une fois, qui n'a pas vraiment, je crois, d'expérience opérationnelle. Donc là, il va se retrouver à la tête de ce qu'on appelle le mammouth de l'éducation nationale.
Oui, ou l'usine à gaz.
Et l'usine à gaz.
Il y a plusieurs homonymes.
Donc c'est un intellectuel à la tête d'une structure comme ça. Je pense que c'est intéressant, mais effectivement, on peut sentir qu'il y a un gros challenge.
Édouard Dorian Sipel.
Je vais dans votre sens, parce que je crois en effet que le symbole et la dimension symbolique est une dimension essentielle de la politique depuis toujours. La politique se joue aussi de symboles, parce que c'est comme ça. Ça ne se réduit pas au symbole, mais ça compte. Et je trouve que le symbole de ce ministre, Pape Ndiaye, son nom, son parcours, ses origines, et aussi le travail qu'il a pu effectuer comme historien, et le parcours républicain qui est le sien, historien, école normale supérieure, donc le parcours de l'élite intellectuelle française, me paraît très très bien. Enfin, il a la même formation, encore une fois. Enfin, je veux dire, il a fait la même formation que Sartre, Aron. Ouais. Voilà, école normale supérieure, très important. Moi, je trouve que c'est très bien. Et moi, vous savez, moi, je suis un Français aussi immigré. J'ai pas du tout le même parcours, mais c'est celui de millions de Françaises et de Français. Je pense que ça parle à des millions et de millions d'enfants Françaises et Français de voir que des personnalités comme la sienne puissent aussi un jour devenir ministre. Ça peut créer des rêves. Ça peut créer des défis, ça peut donner des envies, créer du désir à des gens qui ne s'estiment pas être en situation d'accéder jour à des postes de responsabilité. Si moi, quand j'étais gosse en France, j'avais vu des ministres aussi comme ça, ça m'aurait motivé, je pense, plus fortement. Et je pense que ça, c'est bien. De la même manière que la première ministre a dit dès sa prise de fonction sur le perron de Matignon, qu'elle dédiait sa nomination à toutes les jeunes filles de France et que chacune puisse penser qu'elles peuvent réaliser leur rêve. Ça paraît simple comme ça. Ça paraît même un petit peu...
Ça a touché Marie-Virginie.
Un petit peu candide.
Qui a été une petite fille par le passé.
Mais moi, je crois aussi que quand on regarde le parcours d'Elisabeth Borne, qui est un parcours de la République méritocratique, qui a eu aussi une enfance avec une part de tragique terrible quand on regarde son histoire personnelle, en arriver là et dire ce qu'elle dit, c'est un message du cœur très chaleureux. C'est, je crois, ce que la France fait de mieux. Et ça aussi, ça ne change pas toutes les conditions sociales, mais ça donne aussi de la force et ça donne des intentions.
Alors, venons-en à ce projet de loi sur le pouvoir d'achat, puisque vous vouliez que je le détaille, le voilà. un chèque alimentation, des mesures de bouclier tarifaire, la prolongation de la réduction des prix du carburant, la revalorisation des retraites, le triplement de la prime Macron et un leasing à moins de 100 euros par mois pour l'accession à une voiture électrique. Alors tout à l'heure, ça ne vous a peut-être pas échappé, mais nous avions la présidente de l'IFRAP, Agnès Verdier-Molinier, qui a sorti sa calculette et qui a dit, voilà, ça, ce sont des millions et des milliards d'euros en plus chaque année qui va creuser la dette, qui va sans doute accentuer les impôts qui pourront peut-être tomber là-dessus. Marie-Virginie Klein, d'accord, pas d'accord?
Alors, moi je pense qu'Agnès Verdier-Molinier, elle calcule très bien, donc je fais confiance en ses calculs. Je suis sûre que c'est des mesures qui vont coûter cher. Après, vous savez, c'est toujours une question de choix. Hein. Où est-ce qu'on choisit de dépenser si c'est là et justement pas ailleurs, comme dans l'économie numérique, par exemple. Ça annonce quand même, ces mesures, un quinquennat qui va être extrêmement difficile. On n'a plus la même croissance. Il va y avoir les effets collatéraux du coup de la crise Covid. On a la guerre en Ukraine qui va créer une inflation forte.
Qui est déjà là, hein, mais qui va continuer.
La dette dont parlait sûrement Agnès Verdier-Molinier, qui va continuer de se creuser très fortement. On est face à une urgence à la fois climatique, un défi énergétique, une crise démocratique. En plus, le pouvoir d'achat, si vous voulez, ces réformes sur le pouvoir d'achat, c'est aussi peut-être d'abord pour préparer psychologiquement on anticipe que ça va être dur pour les classes populaires et donc on donne tout de suite ces aides avant que la crise n'advienne. Et puis en plus de ça, il va quand même essayer de mettre en œuvre la réforme la plus dure de toutes à mettre en place, qui est la réforme des retraites.
Qui sera conduite par Olivier Dussopt.
Ouais, et en plus, avec une Assemblée nationale, on va voir le résultat des élections, mais si les projections se confirment, qui va être pas tout à fait docile, hein, avec quand même tous les députés NUP et RN, ça va être quand même un sacré challenge. Et je pense que c'est en anticipation de ça que ces mesures ont été annoncées aujourd'hui.
Édouard Dorian-Sipel.
Quand j'entends Madame Molinier-Verdier dans ses analyses et calculs...
Verdier-Molinier. Je vais vous appeler Sipel-Riant.
Oui, ça peut arriver. Je trouve plutôt rassurant parce qu'on sait qu'elle est une intellectuelle et une chercheuse qui est plutôt libérale, très libérale. Ça montre du coup que si ça l'inquiète, c'est que la politique qui va venir n'est pas celle de l'austérité, ce qui est bien pour le pays et qui est bien pour les Français et qui va dans le sens de ce que Emmanuel Macron a décidé. Je pense qu'on ne peut plus avoir cette vision uniquement gestionnaire de la politique, à gérer la dette qui est importante, qui va faire l'objet bien entendu d'une préoccupation très importante du gouvernement. Mais on ne peut pas avoir la même pensée qu'on pouvait avoir éventuellement avant la crise de la pandémie et avant la guerre en Ukraine. Je crois qu'il y a eu un changement stratégique majeur au niveau européen, un changement de mentalité, un changement d'attitude. Quand la pandémie est venue d'une part, c'était la politique du coup.
Qu'est-ce que vous cherchez à dire? Je ne comprends pas.
Qu'il faut de l'intervention publique, que la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne va soutenir les États et doit continuer de le faire pour qu'on mène les politiques stratégiques et qu'on réponde aussi aux besoins du quotidien. Ça veut dire qu'il faut avoir un peu plus de souplesse sur la question des 3% du déficit public, ce qui est le cas depuis la crise de la pandémie, l'Europe doit laisser les pays faire des investissements structurels pour le futur et qu'en même temps, on doit mener les réformes pour faire la modernisation de notre État et des politiques publiques, mais qu'on ne peut pas avoir la tête uniquement sur le guidon de la dette de manière rigide, de manière
fétichiste. Thierry Breton, qui est commissaire européen, qui est vraiment aucunement fétichiste, qui a dit qu'il faudrait de toute façon la rembourser. Et il l'a redit encore il n'y a pas très longtemps.
Mais on ne peut pas penser comme une famille française quand on est un État et quand on est une organisation politique comme l'Union européenne. On regarde sur le très long terme, sur 80 ans, sur au-delà de 50 ans. On est sur une échelle de temps qui n'est pas l'échelle individuelle. Un État et les États
et l'Europe, nous sommes riches. Vous comprenez que la situation est compliquée alors que l'argent ne coûte plus zéro comme il coûtait il y a encore quelques mois.
Non mais l'inflation, elle est déjà là. Elle est moins forte d'ailleurs en Europe, en France, pardon, par rapport à d'autres pays.
Bouclier tarifaire.
Mais parce qu'en France...
S'il n'y avait pas de bouclier tarifaire, elle serait à 10% l'inflation.
Mais ça vous montre que l'intervention du pouvoir, les décisions politiques du président de la République ont déjà protégé les Français sur les prix de l'énergie. La première ministre a rassuré les Français hier en disant, vous venez de le rappeler, que ce sera maintenu ce blocage des prix de l'énergie, qui aura d'autres mesures en faveur du pouvoir d'achat, relever les minima sociaux, relever les retraites, la prime Macron
triplée. La question, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de mettre des déchets sous le tapis pour que personne ne voit rien, quoi.
Je ne crois pas. Je pense que c'est nécessaire. Je pense que s'il s'agit de sauver des vies humaines et de sauver la dignité des hommes et des femmes de notre pays en Europe, je pense que ça vaut mieux que la simple gestion de la dette au quotidien.
Marie-Virginie.
Non, moi, je pense qu'il y a une question de timing qui est très importante. Il lance ses réformes maintenant parce qu'il ne pourra plus le faire après. Là, on est dans une campagne. Il a d'ailleurs intérêt à le faire maintenant parce qu'on a bien vu que c'était la priorité des Français. Quand on parle de déchets sous le tapis, moi, ça me fait venir une autre idée aussi, c'est celle de l'écologie, qui va être quand même l'enjeu du quinquennat à venir. Et c'est d'ailleurs pour ça,
ministère, hein, avec en plus Elisabeth Borne qui chapeaute le tout et qui a été ministre de l'écologie.
Alors justement, d'ailleurs, sur ce double ministère, moi, ça m'a un peu interrogée. Parce que souvenons-nous, époque Sarkozy, le ministre de l'écologie, c'était Jean-Louis Borloo. C'était le deuxième dans l'ordre protocolaire et deuxième grand ministère. Parce que c'était déjà une priorité. Là, ce qui est étrange, c'est qu'en fait, on n'a pas un ministre, on a deux femmes. Alors moi, pardon, je prends mes lunettes, mais je suis obligée de le dire. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir deux postes, en plus deux femmes, plutôt qu'une seule qui soit vraiment...
Parce qu'il y a le territoire d'un côté et les...
Voilà. Non, pas uniquement. Oui.
C'est quand même un débat. Est-ce que la vraie ministre de l'écologie, c'est pas Elisabeth Borne, finalement, et qui va se faire épauler par, d'un côté, la transition écologique et d'un côté, la transition énergétique? En fait, Agnès Pannier-Runacher, qui prend la transition énergétique, c'était l'ancienne ministre de l'Industrie. Mmh. Donc, finalement, c'est plus ou moins le même poste. C'est une autre façon de l'appeler. Et Amélie de Montchalin, qui est à la transition écologique, alors elle fait quand même un grand écart parce que...
Fonction publique.
Voilà, elle part de la fonction publique et donc elle va apprendre. Ce dont on peut faire le pari, c'est que c'est quand même deux énormes travailleuses, d'ailleurs trois, avec Elisabeth Borne. Les trois ont une feuille de route et sont réputées pour être d'immenses travailleuses. Mais quand même, j'espère que ce triumvirat va fonctionner parce que c'est pas très très clair.
Ouais. Cédric Villani disait dans l'interview politique, avant que vous n'apparaissiez dans ce studio, que c'était une usine à gaz. En tout cas, un système très sophistiqué qui ressemblait à une usine à gaz. Voilà.
Bon, je ne comprends pas.
Édouard Dorian-Sipel.
Non, je crois que le grand chef
en une minute.
Des armées de la question énergétique et de la question écologique, ce sera de toute façon Emmanuel Macron, pour une raison simple, c'est que ce sont deux questions ultra stratégiques.
On en revient toujours à lui, c'est ça qui est formidable.
Mais en même temps, il est président, et on ne peut pas dire que les questions énergétiques, où elles sont éminemment géopolitiques, on n'a pas besoin de faire dessin avec la question de la guerre en Ukraine, et la question écologique sont extrêmement stratégiques, et tout ce qui est de l'ordre du stratégique relève du président de la République. Je pense que là, qu'on a une équipe et une armée en bataille, puisque vous avez le président qui va piloter ça de manière stratégique, vous avez une première ministre qui est en première ligne et qui a l'expérience en tant qu'ancienne ministre de l'écologie, et doublé des deux planificateurs écologiques d'une part énergétique. Je pense que la question énergétique, si on a à la déconnecter d'un ministère de l'écologie pour répondre à ce que vous disiez, c'est sans doute à la faveur de la situation terriblement dure avec la guerre en Ukraine. Et l'urgence sur les questions énergétiques.
Merci beaucoup à vous deux. Merci Édouard Dorian-Sipel. Merci Marie-Virginie Klein. Dans un instant, le journal de 19h avec Sophie Tussaud.
Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneau.
À 19h15, désormais, une interview qui nous fait réfléchir, qui nous fait prendre le large, qui nous interpelle. Bonsoir Jacques Toubon.
Bonsoir.
Merci de nous rendre visite à Europe 1 en ce samedi après-midi. Pour ceux qui l'auraient oublié, vous avez été ministre de la Culture, garde des Sceaux, maire du 13e à Paris, député européen, tout dernièrement défenseur des droits, je ne cite pas tout. C'est un livre de sagesse, d'une certaine manière, que vous publiez chez Stock. Ça s'appelle « Je dois vous dire ». Et ce « Je dois vous dire » sonne à la fois comme « Je vous le dis parce que mon devoir de réserve faisait que je ne pouvais pas vous le dire avant » et aussi comme « Je vous le dis là, mais je ne vous le redirai plus ». C'est comme un reproche qu'on fait à un ami, mais on lui dit une seule fois et on se tait. Ce que vous voulez dire sur ces 150 pages, c'est que le monde a changé, qu'on manque d'une réponse politique au ras-le-bol de l'injustice, d'une réponse politique sur quelle est l'histoire officielle, puisque selon les points de vue, les histoires s'opposent, ou en tout cas s'entremêlent, qu'il est beaucoup question d'immigration, de wokisme, d'indigénisme, mais que finalement, Jacques Toubon, vous restez optimiste.
Oui, vous avez parlé d'un livre de sagesse. Je dirais, je l'ai voulu aussi comme un livre de raison, parce que tout au long de ce livre, vous avez pu remarquer que ce que je dénonce, dans les comportements individuels ou collectifs, c'est souvent ce qui relève de l'irrationnel. Mmh. Et je pense que la raison, c'est ce qui, il y a deux siècles et demi, a fondé naturellement les Lumières, les droits de l'homme, mmh. et les valeurs universelles de l'humanisme dans lesquelles nous vivons. Et ce livre, il est une sorte d'alerte, de cri d'alarme, pour dire, attention, dans une espèce d'indifférence, ou pour certains pays, dans la complicité carrément, on est en train de mettre en cause ces valeurs universelles, ces principes humanistes, au profit de démocratie illibérale, d'autocratie élective, de pays dans lesquels on est gouverné par les préceptes des églises évangéliques, par exemple dans certains des États des États-Unis, mmh. ou au Brésil. Et je dis, mais attention, ce n'est pas ce pourquoi nous nous sommes battus pendant la Deuxième Guerre mondiale et pourquoi nous avons vaincu le nazisme. Ce n'est pas ce que nous avons dit à Nuremberg, ce n'est pas ce que nous avons écrit dans la Convention sur le droit d'asile. Nous vivons de quelque chose qui apparaît à beaucoup de personnes comme un état naturel, alors que c'est en réalité un état de droit que nous avons construit. C'est un édifice de valeurs qu'il faut défendre. Et ce livre, en quelque sorte, à partir d'une expérience de 20, 30, mmh. 40 ans, et notamment depuis l'affaire des tours jumelles, oui. qui m'a beaucoup alerté, et la manière dont les Américains, avec le Patriot Act, ont choisi la sécurité contre la liberté, je me suis dit, mais on ne peut pas faire comme si les choses étaient comme avant. Chez nous-mêmes, on sait très bien que, je prends un exemple, de l'état d'urgence antiterroriste mmh. qui a pris fin le 31 octobre 2017, il demeure cependant au moins 4 dispositions de droit pénal et de procédure pénale qui étaient exceptionnelles et qui sont rentrées dans le droit commun. Heureusement, heureusement, sous le contrôle du juge. Mais c'est entre les mains du juge qu'on remet le sort de nos libertés, car la procédure pénale, c'est d'abord la liberté. Donc, je crois qu'il est bon aujourd'hui, et comme vous l'avez dit, avec la liberté de parole et d'écrit qui peut être la mienne aujourd'hui, après 50 ou 55 ans de service public ininterrompu, j'ai voulu le dire, et je pense que la France est un des pays dans lequel il faut le dire. Ce qui a été fait hier...
Et vous le dites une fois avant de vous retirer, d'une certaine manière. On sent qu'il n'y aura pas de tome 2, quoi. C'est
Oui, sauf que il peut exister des causes pour lesquelles je suis tout à fait prêt à m'engager, dans la mesure où je crois que aujourd'hui, comme vous le savez, il est très difficile de dire où se situe l'action politique. Mmh. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles il y a cette sorte de divorce qu'on a constaté à plusieurs reprises entre le peuple et les dirigeants. Le peuple ne se sent pas représenté en France, comme ailleurs d'ailleurs. Et on s'interroge sur où commence et où finit la politique. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut être conscient que l'état de droit, le conflit entre l'identitarisme et l'universalisme, c'est ça les vrais sujets politiques.
Alors, c'est assez amusant, je dois dire, assez inattendu de vous voir ce soir, Jacques Toubon, car l'invitation a été lancée, il n'y a pas de secret, il y a un peu plus de 15 jours, Pape Ndiaye.
Oui.
C'est l'homme dont tout le monde parle oui. en ce moment, à tout point de vue. Vous le citez, page 82.
Absolument.
Est-il, selon vous, le wokiste, l'indigéniste qui va déconstruire le socle de l'histoire de France, comme l'ont dit deux figures de l'opposition hier soir?
Bien entendu, ce qui a été dit hier soir est... notamment ce que vous citez à l'instant, concernant Pape. Je dis Pape parce que je le connais bien oui. depuis moins d'une dizaine d'années. C'est ça s'appelle en français des insanités, c'est-à-dire des choses qui relèvent de la folie. Voilà, tout simplement. C'est un universitaire, c'est un homme de connaissance. Il a fait une carrière de chercheur, de professeur, à la fois en France et aux États-Unis, et il est un de ceux qui représentent le mieux et par lui-même, et par l'enseignement qu'il a dispensé des deux côtés de l'Atlantique, par la reconnaissance qu'il a eue, et depuis l'année dernière, comme directeur du Musée national de l'histoire des migrations, dont j'ai été le fondateur, il est représentatif de ce qu'est et de ce que je dis dans ce livre, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il faut que les valeurs universelles soient capables de bénéficier à tous, à égalité. Il n'y a pas de race, il n'y a pas de condition inférieure ou supérieure. Mais en même temps, que l'universalité humaniste respecte la diversité. Et l'identitarisme que je dénonce dans ce livre, ce n'est pas du tout cette diversité. Et c'est pour ça que je le cite en disant, et la phrase est explicite, « L'antiracisme contemporain dans l'ensemble ne tourne pas le dos à l'universalisme. Il cherche à l'approfondir en évitant qu'il soit incantatoire, décharné, selon le mot d'Aimé Césaire. C'est un pragmatisme, faire reculer les discriminations plutôt que s'épuiser à extirper le mal de la tête des racistes. Je trouve que ce que j'écris dans mon livre, ce que j'ai fait notamment avec la création du Musée national de l'histoire de la migration, ce que j'ai fait comme maire du 13e arrondissement, où je rappelle que le 13e arrondissement, c'est le monde entier, hein, et pas seulement les personnes d'origine chinoise.
Oui, le Chinatown.
Eh bien, ce que j'ai essayé de faire, et ce que je le ressens exactement comme pape, et je trouve que c'est encore une fois une insanité complète de le décrire ainsi. Je pense, car vous avez vu que dans mon livre, je dis qu'une des solutions des difficultés que je décris, c'est l'enseignement, c'est l'éducation, et je pense qu'un homme comme pape peut parfaitement introduire dans notre système d'enseignement, et notamment dans l'enseignement secondaire, ces principes qui sont à la fois au confluent de l'universalité et de la diversité, et de faire en sorte que, ce qui est le but d'une société comme la nôtre, il n'y ait pas eux et nous, vous et moi, mais nous tous ensemble à égalité.
En tout cas, votre livre est passionnant. Merci d'avoir été avec nous ce soir, Jacques Toubon. Je dois vous dire, aux éditions Stock, dans un instant, Panorama, avez-vous récemment hésité ou même renoncé à votre projet immobilier? La hausse des taux d'emprunt a été spectaculaire, exponentielle, c'est pas fini. Où est-ce qu'on va comme ça? Les professionnels vous expliquent tout dans un instant. À tout de suite.
Europe Soir Weekend.
Pierre de Villeneuve.
Dernière partie d'Europe Soir jusqu'à 20h, les débats de Panorama. Et c'est une période étrange où certains professionnels de l'immobilier vous disent le marché est complètement fou. D'autres vous disent on s'attend à une forte régression. D'autres au contraire vous disent les chiffres sont toujours aussi élevés, on vend toujours autant. En attendant, les prix ne baissent pas ou pas beaucoup. Les taux d'emprunt, eux, s'envolent. On est passé de environ 0,80 à 1,60 sur un prêt de 25 ans, le double. Vous rendez compte, en à peine un mois, on va en parler avec nos invités. Bonsoir à Guillaume Autier.
Bonsoir Pierre.
Président directeur général du groupe Meilleur Taux. Bonsoir à Eddy Jacquemart.
Oui, bonsoir.
Président de la Confédération nationale du logement. Et au téléphone avec nous, Christophe Demerson. Bonsoir.
Bonsoir.
Président de l'Union nationale des propriétaires immobiliers, l'UNPI. Guillaume Autier, question directe. Les taux ont augmenté en flèche. Pourquoi d'abord?
Alors, il y a plusieurs phénomènes. Hein. Le premier phénomène, bien sûr, c'est un phénomène de contexte économique. Le taux, ce qu'on appelle le taux des OAT, c'est-à-dire le taux des emprunts d'État, a augmenté en fait encore plus que le taux des crédits immobiliers. On se souvient qu'il était négatif, on a connu ça, des taux négatifs, cette situation très très étrange.
Ce qui a permis le quoi qu'il en coûte d'ailleurs pour le gouvernement.
Ce qui a permis beaucoup de choses, qui a permis à beaucoup d'États de se financer. C'était il n'y a pas si longtemps, à la fin de l'année dernière, on avait des taux négatifs. Aujourd'hui, le taux des emprunts d'État, il est à peu près, il s'est stabilisé depuis quelques jours, autour de 1,50%. Donc quand vous parliez d'une augmentation de 0,80 à peu près, on voit que le taux des emprunts d'État, il a augmenté finalement encore plus. Après, les banques, eh bien, elles se refinancent dans les marchés. Donc le taux de marché, il a un impact sur le taux des crédits immobiliers. Il y a d'autres phénomènes, mais qui jouent finalement, on va dire, à la marge. Principalement, c'est un élément de contexte économique qui explique
d'accord.
cette augmentation des taux de crédit immobilier.
C'est à cause de la guerre en Ukraine, ça n'est pas entièrement vrai.
Il y a plusieurs phénomènes qui expliquent ça.
C'est pas la cause principale.
Évidemment, la guerre en Ukraine n'arrange pas les choses, mais ce qui fait qu'un État comme l'État français emprunte plus cher, c'est aussi que les investisseurs qui lui prêtent finissent par se dire, il y a une petite prime de risque, peut-être que l'État s'est beaucoup endetté, eh ben, il faut qu'ils payent un petit peu plus cher. Donc il y a tous ces phénomènes qui jouent et qui expliquent l'augmentation des taux.
Cette augmentation des taux, elle va continuer ?
Alors, nous, ce qu'on pense, c'est qu'elle va en effet probablement continuer. Je rappelle que la dernière fois qu'on a eu l'OAT, c'est-à-dire le taux de l'État à 1,50, c'était en 2014. Et à ce moment-là, le taux de crédit immobilier, il était à 3%. Mmh. Donc on voit qu'aujourd'hui, comme vous disiez, il est autour de 1,60. Et donc probablement, si on applique un peu le même raisonnement, il peut encore augmenter, même si le taux au fonds sans risque, le taux de l'État se stabilise. Et donc ça veut dire que pour les gens qui ont un projet, ben, il ne faut pas s'attendre à ce que les taux rebaissent. En fait, nous, ce qu'on dit, c'est que les taux vont peut-être augmenter, en tout cas, ils ne vont pas baisser. Et donc, on est dans une situation dans laquelle on ne reverra probablement pas de si tôt, c'est en tout cas ce qu'on pense, des taux à 1% ou des taux à 0,8%. Et donc, si les gens ont un projet, il vaut mieux ne pas attendre.
Il vaut mieux y aller et se dire que, bah, de toute façon, il y avait des taux, il n'y a pas si longtemps que ça encore, ça dépend à quelle période on se réfère, mais effectivement, il y avait des taux à 2,5%, 3%, 3,5%, 4% même.
C'est ça. 1,60, c'est finalement pas si élevé. Pour donner des chiffres, pour quelqu'un qui emprunte, on va dire 200 000 euros, ce qui est à peu près le prêt moyen. Il y a pas si longtemps, finalement, on payait à peu près 1 000 euros à peu près pour un emprunt à 20 ans. Et là, on va payer quelque chose comme 1 040 euros. Et donc, l'augmentation, elle représente à peu près 40 euros de plus par mois. Pour faire simple, pour arrondir, ça fait à peu près 10 000 euros sur toute la durée du prêt. Alors, c'est un montant qui n'est pas négligeable, 10 000 euros. Mais c'est sur 20 ans. Quand c'est le projet de sa vie, 40 euros par mois, finalement, ça ne doit pas faire renoncer. Et surtout, on pense, nous, que ça ne va pas diminuer. Donc, il faut y aller si on a un projet.
Christophe Demerson, en quoi c'est cette flambée des taux d'emprunt vous fait peur ou d'ailleurs ne vous fait pas peur ? J'en sais rien, moi.
Elle me fait pas peur, je l'observe comme tout le monde et j'écoute attentivement les conseils de meilleur taux. Alors c'est vrai qu'il y a trois types de problèmes, ce qu'on observe, donc ces trois types de problèmes. Chez les jeunes tout d'abord, les jeunes, ils n'ont pas d'argent, donc ils ont un problème d'apport. Mmh. Après, chez les plus âgés, là c'est un autre problème, c'est que comme ils sont souvent, ils ont des problématiques de pathologie, ils rentrent un petit peu dans l'âge ou à la retraite, et là s'ils veulent emprunter, ben là il y a une problématique d'assurance. Puisqu'à ce moment-là, quand on prend de l'âge, eh ben, les taux d'assurance s'envolent et il est fréquent qu'on voit des gens qui payent beaucoup plus d'assurance que d'intérêt d'emprunt. Et puis enfin, la troisième problématique, mais celle-là, elle est plus sérieuse et peut-être que celle-là nous inquiète quand même à moyen terme, c'est la problématique pour les investisseurs. Parce que pour les investisseurs, les choses vont être beaucoup plus compliquées puisque c'est vrai qu'on regarde les banquiers et les courtiers regardent attentivement ce qui se passe, ils regardent le taux d'endettement et c'est vrai qu'il est figé à 35% et c'est vrai qu'on voit des gens qui ont des dossiers sans problème et ben qui peuvent plus emprunter, qui peuvent plus investir.
Il y a des gens qui gagnent très très bien leur vie et qui ont cette barrière du taux d'endettement à 35% et qui peuvent pas aller plus loin dans leur projet.
Exactement. Et ça, c'est une problématique qui nous inquiète à moyen terme, puisque vous le savez, eh bien, le logement aujourd'hui, c'est une vraie problématique, même s'il n'y a pas de ministre du logement, même si on l'espère. Mais c'est vrai que le sujet du logement a été un petit peu sous le tapis pendant la présidentielle. Mais ça nous inquiète parce que vous savez qu'il y a quand même une problématique qui se profile. C'est la rénovation énergétique. Donc là, les propriétaires bailleurs, ils vont se tourner vers leurs banquiers ou vers leurs courtiers. Oui. Et là, il va y avoir des enjeux, puisque si la machine peut se gripper, déjà qu'elle est un petit peu grippée, puisqu'il y a une pénurie de matériaux et une pénurie de main-d'œuvre. Donc là, on regarde attentivement ce qui se passe.
Eddie Jacquemart.
Alors, ce qu'on peut dire, si on donne un dernier conseil.
Christophe Demerson.
Pardon. Oui, ce que je peux dire, si je donnais encore un conseil, c'est que, surtout chez les jeunes, moi, ça me frappe des fois, on voit des dossiers qui sont refusés pour très peu. Dans les familles, si les gens veulent donner, faire des donations, c'est peut-être le moment de donner même une petite somme à leurs enfants. C'est pas à 60 ans ou 70 ans qu'ils auront besoin de l'argent. Et tout de suite, quand il va y avoir un peu d'apport, ça peut jouer, ça peut être intéressant pour les jeunes qui se lancent. Et je pense aussi que c'est peut-être sage, si on voit une bonne affaire, si on voit une opportunité, c'est peut-être sage de la saisir. Et puis enfin, il y a un dernier point. Nous, on avait soulevé ça à l'UNPI. C'est qu'on regarde toutes les petites taxes qui se mettent quand tout va bien, quand tous les clignotants sont ouverts. Je vous rappelle quand même qu'en 2019, il y a eu une nouvelle taxe. Au 1er janvier 2019, c'est pas si vieux, il y a eu une taxe de 9% sur l'assurance d'essai emprunteur. Tout le monde nous disait, ouais, c'est rien, 9% sur l'assurance d'essai emprunteur. Oui, sauf qu'aujourd'hui, sur des durées de 20, 25 ou plus, tous ces petits... ces petites dizaines d'euros, eh ben, elles font des sous en bout de ligne, et puis les jeunes, ils peuvent l'emprunter.
D'où les problèmes, les systèmes de délégation d'assurance, où on n'est pas obligé forcément de suivre sa banque pour également avoir ce crédit assurance dans la même banque. Eddie, Jacques-Marc, il y a problème pour les propriétaires, problème pour les locataires aussi de fil en aiguille.
Oui, alors cette nouvelle, ça vient, c'est pas une bonne nouvelle en fait pour les locataires qui arrivent en fait avec une inflation au plus haut pour l'instant, puisqu'on est à 2,48 actuellement en termes d'augmentation pour les loyers du privé. Donc ça veut dire que les locataires actuellement vont avoir une augmentation pour tous les baux, la date anniversaire de leur bail, vont avoir une augmentation de 2,48. Et si on imagine que les investisseurs en fait achètent plus cher, ça veut dire qu'ils vont automatiquement à terme répercuter le coût de l'emprunt dans le calcul de leur investissement et de leur loyer. Donc ça, pour nous, ça nous inquiète évidemment. Et un autre sujet également, c'est pour les locataires qui voulaient partir vers l'aventure de l'accession à la propriété. Donc quelquefois, c'est quand même des publics très fragiles qui ont des revenus modestes, qui sont quelquefois accompagnés dans des processus d'accession à la propriété sociale. Et si les taux augmentent, eh bien, ça peut remettre en cause justement cette accession à la propriété.
Les taux augmentent, et puis on l'a compris, sans apport, t'es mort. Hein, on pourrait presque avoir ce slogan-là. Je parle sur votre contrôle.
Il faut de l'apport aujourd'hui. Je pense que pour résumer, pour faire simple, en effet, pour concrétiser un projet de crédit immobilier, mettre toutes les chances de son côté, dans l'énorme majorité des cas, il faut de l'apport pour le quantifier, on dirait, voilà, autour de 15%. Et comme ça a été dit, je pense que c'est un très bon conseil, quand on se lance dans son projet, surtout si c'est son premier projet, et ben pourquoi ne pas faire le tour de sa famille, de ses amis, pour compléter un petit peu cet apport. Parce que c'est vrai que si on n'a pas du tout d'apport, il y a quelques années...
Vous vous rendez compte dans quelle situation on se met? C'est-à-dire qu'on est en train de faire la manche auprès de sa famille. C'est une situation inédite, ou est-ce que ça s'est déjà produit par le passé, ce genre de situation?
On a eu en fait une période dans le crédit immobilier, on va dire, de ce qu'on appelle de 110%, c'est-à-dire où les banques finançaient les frais. Mais finalement, historiquement, je pense que les gens qui ont fait des crédits immobiliers il y a 20 ans, 25 ans, se souvenaient qu'il fallait mettre un petit peu d'apport. Dans la grande majorité des cas, il fallait mettre un petit peu d'apport. Donc on revient à cette situation. Et d'ailleurs, ce n'est pas la faute des banques, il faut le dire. C'est aussi parce que des règles sont arrivées, notamment au début de l'année 2020, juste avant le confinement. Il y a des nouvelles règles qui sont arrivées, qui ont mis un petit peu de pression sur les banques et qui ont dit, maintenant... Pour prêter, pour faire un crédit immobilier, vous devez exiger de votre emprunteur qu'il ait un apport. Et ce sont d'ailleurs les mêmes règles qui ont dit ce que votre invité a dit il y a un instant, c'est-à-dire quand on fait de l'investissement locatif. Auparavant, il y a encore 2-3 ans, on pouvait faire de l'investissement locatif de façon assez large. Donc l'investissement locatif, c'est quand on a déjà un bien et qu'en fait on en achète un autre pour le louer, pour le mettre en location. Et donc ça a un impact sur les locataires. Eh bien, les mêmes règles, les règles de Bercy, disons pour faire simple, le terme technique c'est HCSF, des normes de début 2020, ont dit, quand j'ai deux crédits, celui pour ma maison et puis celui pour un investissement locatif, c'est plus contraignant, je dois respecter la règle de 35%. Alors qu'avant, les banques, pour ce public-là, pour les investisseurs locatifs, c'était plus souple, c'était plus simple. Dorénavant, c'est 35%.
Mais ça allait jusqu'à 50%, ça?
On pouvait aller jusqu'à 50%, comme vous disiez il y a un instant. C'est en général des gens qui n'ont pas tellement de problèmes, qui sont des bons risques, qui remboursent leur crédit. Et donc, c'est pour ça que les banques, avant, jusqu'à 2019, on va dire, leur prêtaient sans trop de difficultés jusqu'à, on va dire, 40%. 50%, c'était
assez
rare.
Mais c'est un regret, à votre avis? Vous trouvez que finalement...
Vous
trouvez que cette règle des 35% est une mauvaise règle?
Elle est probablement trop rigide, on va dire, pour deux publics. Le premier public, c'est celui dont on vient de parler. L'investissement locatif, et donc ça se répercute sur les locataires, c'est normal d'assouplir un petit peu les règles parce qu'on parle de gens qui n'ont pas tellement de problèmes. Et donc, on pourrait autoriser ces gens à aller jusqu'à au-delà de 35%, à 40%. Il n'y avait pas de problème avant. Il y a une règle qui est arrivée. On se demande vraiment pourquoi. Il n'y avait pas tellement de problèmes.
Pour les problèmes de surendettement, peut-être.
Pour ce public-là qui fait l'investissement locatif, qui est déjà propriétaire, je rappelle, c'est quelqu'un qui est déjà propriétaire, donc il a pas de risque finalement d'avoir des problèmes de logement.
On peut perdre son boulot.
On a des chiffres, si vous voulez, là-dessus, et on voyait que ce public d'investissement locatif ne comportait pas de risque. Et donc il y a une règle qui est arrivée. Nous, on a dit à l'époque qu'elle freinerait l'investissement locatif, et donc probablement on pourrait assouplir cette règle. Nous l'avons dit à l'époque, nous continuons de le dire. Le deuxième public qui a été concerné, c'est en effet les jeunes. Souvent, les jeunes, ils ont des revenus qui vont augmenter. Et donc, quand on calcule les 35% sur leurs revenus de début de carrière, on met une contrainte très, très forte. Et donc, il y a beaucoup de banques qui disent, j'aimerais bien assouplir un peu cette contrainte parce qu'un public jeune dont les revenus vont augmenter, peut-être que je peux lui prêter 40% parce qu'en fait, ce 40 va devenir 35. Et c'est plus possible. Donc, nous, ce qu'on a dit, et c'est peut-être un message pour le nouveau gouvernement,
il vous entend.
Regardez ces deux publics.
Regardez, c'est debout. Il n'y a toujours pas de ministre du logement, mais en tout cas, peut-être qu'à Bercy, on vous entend.
De l'économie.
Guillaume Mottier, Eddy Jacquemart et Christophe Demerson restent avec nous. Une première pause dans ce débat de panorama et on revient dans un instant.
Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneau.
La folie des taux d'emprunt immobilier, enfin la folie puisque Guillaume Mottier du groupe Bayer Taux a un peu, j'allais dire, ménagé ce slogan. On a l'impression que les taux reviennent comme dans les années 80 à 18%, on est quand même loin de ça. Christophe Demerson est là également pour l'Union Nationale des Propriétaires Immobiliers. Eddy Jacquemart pour la Confédération Nationale du Logement. C'est vrai que nous, on est un pays de propriétaires, mais pas que. Il y a beaucoup de locataires en France, et puis il y a d'autres pays où on est au contraire beaucoup plus locataires que chez nous.
Tout à fait. En fait, je crois qu'il faut avoir en tête que être propriétaire, c'est pas une fin en soi. La France, tous propriétaires, c'était le slogan de Valéry Giscard d'Estaing. Et en fait, on voit bien qu'aujourd'hui, être propriétaire, c'est quelquefois faire des sacrifices aussi sur son pouvoir d'achat. Donc je pense que le problème, c'est les loyers qui sont chers aussi.
Vous savez aussi bien que moi que dans les barèmes bancaires, quand vous êtes dans une banque, si vous êtes propriétaire ou locataire, on ne vous regarde pas de la même façon.
Oui, mais
et
ça,
on vous
c'est
prête
aussi,
pas de l'argent de la même façon.
C'est aussi des choses qu'il faudrait changer. Et je pense que être locataire dans certains pays, notamment en Suède, hein, puisque nous, la CNL, on est adhérent à l'Union internationale des locataires qui est présidée par une présidente suédoise. Ils sont 80% de locataires. Pourquoi ? Parce que les loyers ne sont pas chers et que c'est une façon moderne d'habiter, et notamment pour l'économie aussi, puisque ça permet aussi d'avoir une meilleure flexibilité, de déménager plus facilement pour le travail, etc. Et donc, on avait aussi à un moment donné fait un article, un document en disant les 10 bonnes raisons d'être locataire, parce que finalement, être locataire, il y a beaucoup d'avantages. Et le problème en France, c'est qu'actuellement, les loyers sont tellement chers depuis plusieurs années, ils ont tellement explosé, que finalement, on essaie de faire croire aux locataires que bah, ça serait bien qu'ils soient plutôt propriétaires. Moi, je dis souvent qu'un accédant à la propriété, c'est un locataire de la banque, tout simplement. Il va payer un crédit pendant 25 ans, et au bout de 25 ans, sa maison qu'il aura achetée avec un tout petit apport, parce qu'il n'aura pas beaucoup de sous, il va devoir refaire des travaux et refaire des crédits pour repayer en fait l'entretien de sa maison. Donc ça veut dire que finalement...
Et ensuite repayer des droits de succession pour les donner à ses enfants.
Il paiera toute sa vie, c'est sans fin. Ouais. Donc finalement, être locataire, c'est pas si mal que ça. Et c'est une façon moderne d'habiter et dans un pays moderne.
Christophe Demerson, vous qui justement êtes l'Union Nationale des Propriétaires, c'est quoi le but d'être propriétaire en France ?
Ben alors c'est vrai que autant j'étais d'accord sur la première partie du discours d'Eddy Jacquemart, autant là je vous dis je tombe un petit peu de ma chaise, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce modèle qui est prôné, le modèle dont on parle, et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les loyers aujourd'hui sont chargés. Et quand on dit chargés, il ne faut pas oublier que la location, le locataire, le bailleur privé, il a déjà 17% de prélèvements sociaux, 17,6%, je répète, c'est pas rien. Et puis après, il a la taxe d'habitation. Alors j'écoute que les loyers ont explosé. Les loyers, ils ont peut-être explosé, mais les taxes foncières, si elles ont explosé, c'est pas explosé, c'est surexplosé, puisque les taxes foncières, en 10 ans, c'est 3 fois l'inflation et 3 fois l'augmentation des loyers. Je ne sais pas si vous voyez que pour un propriétaire aujourd'hui, la taxe foncière tout seul, en moyenne, c'est 2,3 mois de loyer. Et après, naturellement, il s'ajoute l'impôt sur revenu. C'est pour ça que nous, on est là pour conseiller. Ça fait 120 ans qu'on est là pour conseiller les propriétaires. Et plus que jamais, on pense que les propriétaires doivent être conseillés ou chez nous ou par des professionnels. Parce que je peux vous dire que les marges sont étroites. Et si les bailleurs privés n'étaient pas là, il y a beaucoup de gens qui seraient à la rue. D'ailleurs, les chiffres ne trompent pas, puisqu'il faut savoir que dans les populations les plus fragiles sont souvent logées chez les propriétaires particuliers.
Eddy Jacquemart, pour
moi, je voudrais simplement dire qu'en fait, les propriétaires bailleurs, il ne faut pas oublier non plus que la taxe foncière dont monsieur parle, elle est déductible de leur revenu foncier. Donc ça veut dire qu'ils ont le levier fiscal. C'est comme les intérêts d'emprunt, ils ont aussi le levier fiscal. Donc finalement, le propriétaire bailleur qui va en fait subir une augmentation à la fois de la taxe foncière et à la fois des taux d'intérêt, mais finalement, en fait, il va encore récupérer de l'argent par le biais des impôts avec le levier fiscal. Et je précise également qu'il y a beaucoup de propriétaires privés qui font du déficit, qui font de la machine à déficit foncier, et que finalement, en fait, ils ne payent jamais d'impôts sur le revenu par rapport à tout ça. Donc, moi, je ne veux pas trop m'apesantir sur les propriétaires.
Réponse de Christophe Demerson.
J'invite Eddy Jacquemart à venir dans une assemblée générale et il verra que les propriétaires, justement, ce n'est pas des pétroliers. Aujourd'hui, je viens de Rodez. Hein, on peut pas, vous auriez vu la population des propriétaires de Rodez. Je peux vous dire que ce n'est pas le grand capital. Bon, mais les gens, c'est des gens qui ont un bien, deux biens à louer, qui font du mieux pour le mettre dans de bonnes dispositions, à la disposition des locataires qui font des travaux, qui s'investissent. Nous, on conseille toujours aux propriétaires d'entretenir les biens et de faire des travaux. Mais si vous voulez, après les choses, quand on dit oui, ils les déduisent, d'accord, oui, ils déduisent les impôts fonciers, mais il ne faut pas oublier, je vous dis déjà, 2,3 mois d'impôts fonciers, 17,6% de prélèvements sociaux et l'impôt sur revenu. Après, je ne vous dis pas, après, il faut payer, comme vous dites, les assurances, les travaux. Donc, en gros, on va dire que c'est 50% du loyer. Sur un loyer à 500 euros, il y a 250 euros pour le propriétaire. Donc, je veux dire, la machine à cash, elle tourne dans les deux sens, parce que si l'État tourne aujourd'hui, c'est parce qu'il prélève, et les propriétaires, d'une manière générale, sont une vache à lait. C'est vrai qu'on le déplore, parce que le discours moraliste, il est un petit peu facile, et oui. Nous, on est là justement pour conseiller les propriétaires et pour qu'ils ne perdent pas le moral.
Guillaume Mottier.
De toute façon, s'il y a des locataires, c'est qu'il y a des propriétaires en face. Évidemment, il y a bien quelqu'un qui est propriétaire.
C'est comme
de
la mobilité.
Kilo.
Je dis toujours, il n'y a pas de mobilité.
Il peut y avoir des bailleurs publics
et
aussi.
Donc,
hein.
Oui, bien sûr, bien sûr. Mais en tout cas, c'est sûr, nous, on fait d'ailleurs chaque année une étude qui s'appelle Acheter ou louer. Et c'est très intéressant parce qu'on voit qu'en fonction des villes, jusqu'à 5 ans, 6 ans, à Paris, par exemple, si vous envisagez de garder votre appartement, on va dire 5 ou 6 ans, eh ben, c'est intéressant d'être locataire. Au-delà, c'est plutôt intéressant d'être propriétaire. Donc, on voit qu'effectivement, ça dépend des régions. Dans certains cas, il vaut mieux être locataire, notamment si on veut déménager rapidement.
Alors, il y a une question inhérente qu'on n'a pas encore abordée, enfin, très peu, c'est la question des assurances. Parce qu'il y a les taux, effectivement. On parlait de, actuellement, pour les plus chanceux, un 45, un 50. On est plutôt un 60, un 70 maintenant. Et puis à cela, il faut aussi rajouter les taux d'assurance qui parfois sont à coup de massue.
Alors ça, c'est un sujet très important. Nous, on s'appelle meilleur taux, donc le taux est important. Mais notre métier, quand on accompagne nos clients, c'est bien sûr de regarder l'ensemble des éléments, dont l'assurance emprunteur. De ce point de vue, il y a quand même eu des progrès, parce que la loi a changé et elle permet aux gens de changer l'assurance emprunteur, soit au moment où ils font leur crédit, soit plus tard. Et il y a une garantie qui est très importante, qui est posée par la loi, c'est que le nouveau contrat, on appelle ça une substitution d'assurance emprunteur, ou une délégation, c'est le même mot à peu près, eh bien, le nouveau contrat doit être au moins aussi protecteur, doit assurer les mêmes risques que l'ancien. Et donc c'est important parce que ça ne se fait pas au détriment de la protection. Et donc ça, c'est un conseil qu'on peut donner à nos auditeurs. Quand vous parlez avec votre banque, quand vous parlez avec un courtier de votre projet Crédit Immo, évidemment, vous devez regarder le taux, mais vous ne devez pas regarder que le taux. Vous devez aussi parler d'assurance emprunteur. Alors, quand on est jeune, on a plus intérêt à changer d'assurance emprunteur que quand on est un peu plus âgé. Mais même quand on est plus âgé, on peut obtenir soit un meilleur tarif, soit parfois aussi une meilleure protection, parce qu'on peut avoir envie de se protéger contre, par exemple, le risque de perte d'emploi, contre d'autres maladies. Peut-être que le contrat groupe, c'est-à-dire le contrat de la banque, ne protège pas ces risques. Et c'est une très bonne discussion à avoir avec le professionnel qu'on a en face de soi. Donc l'assurance, c'est très important.
Dernière chose, parce que d'habitude, ça va de pair. Il y a une sorte de vase communicant entre les prix du bien et le taux d'emprunt. Là, on a vu que les taux ont augmenté. En ce qui concerne en tout cas la région parisienne, les prix n'ont pas beaucoup baissé, ou alors vraiment à la marge.
Alors, on n'a pas encore observé, en effet, de baisse des prix. Donc, c'est vrai qu'en théorie, il y a un effet de vase communicant, quand vous dites. Pour l'instant, on ne l'observe pas. Alors, nous, on a toujours dit que, finalement, il y avait toujours plusieurs marchés. Le marché parisien, le marché de l'Île-de-France, il a un peu sa propre dynamique. Mmh. Il est vraiment poussé.
Et même à l'intérieur du marché parisien, on peut découper.
Oui, il y a plusieurs zones. Il y a des dynamiques un peu spécifiques. Mais c'est vrai que dans certaines zones, on voit que les prix de l'immobilier commencent à être un petit peu plus fragiles. Et donc, ça dépend vraiment des zones.
Ça veut dire que aujourd'hui, c'est la plus mauvaise période parce qu'on arrive justement à ce pic où à la fois le prix est élevé et le taux d'emprunt est élevé.
Alors, c'est pas la plus mauvaise période pour réaliser le projet de sa vie. C'est-à-dire si on doit acheter sa résidence principale, si on doit changer de maison parce qu'il y a le petit dernier qui est arrivé, qu'on a besoin d'une pièce en plus, on va pas faire un calcul sur le thème est-ce que je vais m'enrichir quand je vais vendre ma maison. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est un projet de vie. Et donc, faut réaliser ce projet de vie. Par contre, c'est vrai que si on a un investissement qui est un petit peu plus patrimonial, qui est plus lié, faut être un petit peu vigilant et il faut négocier un peu plus. La conclusion, c'est qu'il faut négocier un petit peu plus parce que c'est vrai que quand les taux montent, eh bien, ça peut avoir un petit impact sur le prix de l'immobilier.
Et Jacques Mar, sur ces prix qui augmentent également pour les...
Ça sera la même punition pour les locataires parce qu'en fait, je parle des bailleurs investisseurs évidemment, hein, mais ceux qui vont avoir des assurances plus chères, eh bien, évidemment, ils vont le répercuter sur le prix de revient de leur investissement et du coup ils vont calculer un loyer plus élevé, donc c'est pas une bonne nouvelle en tout cas pour les locataires qui seront concernés par un investisseur privé.
Bon, en tout cas, on a bien compris que c'était pas forcément la meilleure période pour investir dans l'immobilier. Pardonnez-moi Guillaume Mottier si je vous
contredit un petit peu. Guillaume Autier, PDG du groupe Meilleur Taux, merci à Eddy Jacquemart, président de la Confédération nationale du logement, la CNL, et Christophe Demerson, le patron de l'UNPI, l'Union nationale des propriétaires immobiliers. 19h56.